Les voix du livre. Une émission proposée par Éline Séjot de la librairie du Cyprès Jean de la Lune à Nevers et Claire Garand, biographe chez mémorialiste.fr, avec la participation à distance de Camille Mazet, libraire à la FNAC de Nevers. Vous êtes bien sur BAC FM. Bonjour Éline.
Bonjour Claire.
Nous accueillons aujourd'hui Jean-Michel Roudier, conservateur au conseil départemental de la Nièvre, chargé notamment du musée de Varzy, mais pas seulement, et qui a aussi une vie parallèle, on verra laquelle, la suite tout à l'heure, attention suspense. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et n'hésitez pas à intervenir tout au long de cette émission. Donc nous allons commencer par les coups de cœur du Cyprès Jean de la Lune. Alors je crois que vous allez proposer des livres qui ne restent pas vraiment assis au bord du monde, comme Anna de Noailles. Là j'ai vu le sujet de français, du pacte de français,
oui,
des ESS, c'était avoir l'âme qui rêve au bord du monde,
oui, assise. Oui.
Voilà. Mais non, vous restez pas assise, Éline, vous rentrez dedans.
On essaye. Enfin, pas moi, l'auteur en tout cas.
L'auteur, alors allons-y.
Oui, comme vous le savez, quand on rentre dans une librairie, on est souvent époustouflé par l'immensité de la production éditoriale.
C'est sûr.
Et nous aussi, en tant que libraire, on est là pour conseiller.
Vous êtes noyés.
On est aussi noyés parfois, à nous de faire les bons choix. Et parfois, on reçoit donc des services de presse assez régulièrement, que l'on demande à nos représentants pour les livres, pour les lire en amont, bien sûr. Et parfois, on en reçoit d'éditeurs totalement inconnus pour nous. Et par un coup du hasard, des fois une couverture qui plaît, un titre, on se retrouve avec une vraie pépite entre les mains.
Oh, et c'est... je sens que vous avez fait une découverte, là.
Tout à fait, et j'en suis mais absolument ravie. Ça fait des semaines que je le conseille. Donc, désolée pour les clients du Cyprès Jean de la Lune, qui n'en peuvent plus d'en entendre parler, mais pour les autres. Oui, j'ai été séduite déjà par la couverture, par le titre « L'homme qui n'aimait plus les chats ». Donc, pour moi, horreur, enfer, damnation, SPA, Tierney. Voilà.
Oula, ah oui.
Comment est-ce possible, l'homme qui n'aimait plus les chats ?
Oui, parce que vous êtes fan de chats.
Comment ne pas l'être, Claire ?
Alors, je connais un peu l'histoire. Moi, je suis plutôt chien. Je sens que ça ne va pas bien. Ça va pas bien se passer. Alors.
Plus ce matin brun.
Voilà.
Et il y avait cette petite carte de l'éditeur qui nous annonce que c'est la première publication de cette maison qui s'appelle Les Éditions du Penseur. P-A-N-S-E-U-R.
Ouh, déjà, c'est tout un programme,
donc,
ça.
J'aime beaucoup. Et le premier roman d'Isabelle Hopi. Et sur la quatrième, on nous parle de 1984, de Matin Brun, donc deux grands classiques de dystopie.
On est déjà bien entouré là.
En nous annonçant que c'est bien plus qu'une utopie, c'est aussi un possible, un autrement, un aujourd'hui déjà en train de se relever.
Ouf!
Alors, bien sûr, évidemment, je rentre à la maison,
tout de suite,
on a envie
d'ouvrir.
Et on est tout de suite pris dans cette communauté. Donc, ça se passe sur une île, plein d'embrun, de sel. Il y a ce narrateur, des gardiens de phare, un gardien de phare, un poète, Sergueï, anarchiste, une aubergiste. Et toute cette petite communauté vit en totale harmonie avec des chats. Des chats sauvages, des chats libres, qui n'appartiennent à personne.
Des chats libres, je vois.
Il y a à peu près vers où je vous emmène. Et tout à coup, ces chats disparaissent de l'île. Plus de chats.
Un chaticide.
Et le narrateur nous dit, les chats pour nous, c'était la liberté. C'est quand on la perd qu'on se rend compte qu'elle manque.
Ah oui, d'accord. Donc, ça a un petit côté conte philosophique.
C'est presque, oui, conte philosophique, un peu à la Sepúlveda. Une parabole, une sorte de métaphore. Et peu à peu, une femme du gouvernement arrive sur l'île, accompagnée ensuite de ses compagnons en costume, avec des chats très particuliers, des chats en cage, qui répondent à leur nom, qu'on a besoin de promener pour qu'ils fassent leurs besoins, et dont chaque habitant aurait besoin pour créer du lien social. Ce chat sera votre meilleur ami, vous en avez besoin.
Ah oui, donc on crée un besoin qui n'existe pas.
Il s'agit de chiens.
Ah bah oui, d'accord. Ah, c'est des chats très spéciaux.
Mais le gouvernement nous rapporte bien que non, ce sont bien des chats, attention, ne vous méprenez pas. Et donc,
méfiez-vous des imitations.
Méfiez-vous des imitations. Et là, on va voir tout le déséquilibre qui va se mettre en place dans cette communauté qui jusque-là vivait totalement en harmonie, entre ceux qui adoptent ces nouveaux chats, en croyant bien qu'il s'agit de chats dont ils ont vraiment besoin, ceux qui ont évidemment compris le poteau rose, ceux qui l'ont compris mais qui veulent faire comme les autres, vous voyez bien toute cette fable.
Oui,
et on
a
ce Sergueï anarchiste qui vient des pays de l'Est et qui nous dit, face à ce phénomène, que les dirigeants avaient vite compris que pour asservir les gens aujourd'hui, il fallait créer le manque et le besoin.
Alors oui, effectivement, ça marche aussi bien en politique qu'en publicité et consommation. C'est tout terrain, ce Sergueï.
C'est merveilleux. C'est un texte qui fait, si je m'abuse, 122 pages. Tout ça en seulement 122 pages, avec une plume magnifique. C'est vraiment, j'ai encore les embruns, le sel. Et c'est pas donneur de leçons, c'est vrai, un vrai roman dans lequel on est emmené. Et les phrases sont courtes, incisives, comme un vent marin claquant, un rocher. Ah, ça c'est de moi et c'est beaucoup moins bon. Donc, je vous conseille donc L'homme qui n'aimait plus les chats. Isabelle Hoppy, édition du Penseur.
Édition du Penseur.
Gros, gros coup de cœur.
Donc Le Penseur avec un A.
Avec un A.
Oui, alors je pense qu'il y a peut-être un jeu de mots d'ailleurs entre les deux, je ne sais pas. Mais dis donc, mais c'est non seulement vous avez découvert le livre, l'auteur et l'éditeur finalement. Donc triple découverte.
Grâce à lui et notre collègue Charlotte s'est pris ce livre en photo en bouquinant avec son chat à côté. Et c'est devenu la photo d'illustration de ce bouquin par l'éditeur. Donc c'est une grande histoire que l'on a avec ce livre à la librairie, vous voyez.
Ah, je vois. Donc c'est vraiment c'est un coup de cœur commun de l'équipe.
Oui. Voilà, j'engage toute l'équipe là, comme ça si vous n'aimez pas, c'est pas que de ma faute. Hein. Voilà.
Non, je pense qu'il va falloir être très très difficile pour ne pas aimer ce roman qui en plus se lit facilement, si j'ai bien compris. Et avec beaucoup de plaisir. Mmh. On pense et ça fait du bien. Bah écoutez, c'est pas plus mal. Hein. Mmh. Mais je crois que vous avez une autre surprise dans votre sac.
Tout à fait. Alors,
rien à voir.
Alors, rien à voir du tout. Je vous parlais d'un... Enfin, pas, rien à voir, ça donne quand même à réfléchir. Si.
Mmh. Oui, ça m'étonne pas de vous.
Je vais vous présenter un manga, parce qu'on inaugure dès aujourd'hui d'ailleurs, et qui se poursuivra tout l'été jusqu'à la fin août, un cycle japonais. Aussi près Jean de la Lune, plus particulièrement à Jean de la Lune, puisque une de nos libraires spécialisées jeunesse, BD, manga, revient de Tokyo.
Ah, il y en a qui ont de la chance.
Ah oui, n'est-ce pas? Elle est partie avec les éditions Glénat, qui historiquement sont les premiers à avoir importé le genre manga en France. Donc mm-hmm. Jacques Glénat, qui revenait de Tokyo dans les années 90, a fait connaître ce genre en France. Et par son carnet de voyage, elle va nous faire revisiter la littérature japonaise, l'histoire, la culture et aussi la diversité éditoriale du manga.
Ben, il y a de quoi faire, en effet.
Oui, c'est très genré, le manga. On s'imagine mm-hmm. toujours Dragon Ball Z, One Piece, des choses violentes ou très sexualisées.
Ah ben, il y a de tout.
Mais il y a de tout. Et c'est vraiment là-dessus que l'on veut insister. C'est ce qu'on essaye de démontrer tout au long de l'année et qu'on va faire durant tous ces mois d'été.
Mais dis donc, c'est un très beau projet, ça. Oui. Hein, le Japon s'invite dans la Nièvre.
Dans la Nièvre, voilà. Tokyo Nevers. Et, je ne vais pas vous présenter une nouveauté, mais un livre qui peut toucher beaucoup, même si on ne s'intéresse pas forcément à ce style particulier de manga, qui est Le Chant des Souliers Rouges de Mizu Sahara, édité par Kaze Seinen.
D'accord.
Enfin, je crois que je suis à peu près bonne. C'est le premier tome d'une série de six tomes.
Et, que six tomes.
Oui, oui.
Ah oui, d'accord. Oui. C'est assez court pour un manga qui souvent sont dans des séries qui sont assez...
Et là, on est dans le genre seinen qui s'adresse à un public plus âgé sur des problématiques assez sociétales en général. Et là, c'est le cas on rencontre le jeune Kimitako, qui est le personnage principal de ce roman, qui fait face aux affres de l'adolescence, les difficultés à s'intégrer au sein du collège. Et lui veut être le roi du basket. Et suite à un événement réellement tragique, se retrouve tout à fait démuni, tout à fait déprimé. Ouf. Et jusqu'à se retrouver un soir sur un pont à vouloir jeter ses baskets dans l'eau.
Ah oui, je crois que c'était lui-même qui voulait jeter. Mais bon, cela dit, dans son cas, jeter ses baskets, c'est jeter
c'est
ce qui donne un sens à sa vie.
Et ce qu'il définit jusque-là. Mmh. Et sur ce pont, ce même soir, il rencontre la jeune Takara, qui, elle, parce qu'elle est très grande, qu'elle a des grandes mains, n'arrive pas à danser le flamenco et veut jeter ses souliers de flamenco à l'eau.
Ah oui, d'accord.
Et lui va réussir à la convaincre, lui dire « Mais tu es grande, tu as des grandes mains, tu es faite pour le basket. » Et donc, ces deux jeunes gens vont échanger leurs souliers.
Ah oui, d'accord.
Voyez.
Je vois.
Et voyez.
C'est pas mal.
Et c'est vraiment fantastique parce que donc c'est pas systématique, il y a pas du jour au lendemain un flamenco, mais par un cheminement, quelques temps plus tard, il va retrouver Takara qui s'est mis au basket et lui qui se retrouve à nouveau cette fois au lycée avec encore les gros caïds qui le chahutent au basket, va se dire pourquoi j'enfilerai pas à mon tour ses souliers. Et on va suivre durant les six tomes sa détermination, sa volonté à trouver un sens, un objectif à sa vie, loin des stéréotypes et des clichés de genre en l'occurrence.
Bah oui, bien sûr, effectivement.
Le manga, c'est aussi ça, c'est aussi une ouverture sur la société. Donc ça s'adresse aux adolescents, mais aussi aux jeunes adultes et aux adultes tout court.
On a souvent une image un peu étriquée du manga, sans doute parce que ça n'est pas tout à fait entré dans notre culture, mais ça commence à l'être maintenant de plus en plus. Et c'est une bonne idée de faire découvrir justement ce qu'on connaît moins bien dans le manga. Il y en a de toutes sortes. Donc là, Opération Manga.
Opération Manga. Et vraiment tout ce qui s'approche à la littérature. Il y aura aussi la collection Piquier mise en avant, donc qui est éditeur plutôt de littérature d'Asie, enfin uniquement d'ailleurs.
Mm-hmm. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui a publié Florent Chavouet, qui est donc Nivernais. Un petit coup de chapeau en passant.
Un petit coup de chapeau, ça fait pas de mal.
Oui,
donc il y aura tout ce cycle-là. Et vraiment, je vous invite à aller voir Gwen et Sylvie qui seront un plaisir de conseiller des mangas, découvrir ce type de littérature dont on n'est pas habitué.
Oui.
Voilà. Donc c'est Le Chant des Souliers Rouges.
Le chant des souliers rouges. Eh bien, voilà qui va nourrir nos curiosités estivales. Je pense que les vacances vont être riches en rebondissements livresques. Hein,
et vous verrez la rentrée littéraire qui s'annonce, c'est un sacré cru. Hein, aussi.
Oui, ben, j'imagine que vous êtes déjà dedans.
Je n'en dis rien, garde le suspense.
D'accord, je pense que les prix vont être aussi très mouvementés, j'imagine. Alors, Jean-Michel, peut-être que ces livres vous inspirent quelque chose?
Oui, les mangas, pas du tout. Parce non. que c'est pas ma culture, tout simplement. Oui. C'est pas mon âge, sans doute. Les chats, oui. Oui, sans doute.
Donc, futur lecteur de L'homme qui n'aimait plus les chats?
Probable, oui. Oui. J'en ai plein, des chats. Et voilà, c'est une...
On va vous les échanger contre des chiens, vous allez voir, vous n'allez pas voir la différence.
J'ai eu un chien aussi. Et là, j'ai trois chats et demi.
Trois chats et demi, oui. Je n'ose pas imaginer non. à quoi ressemble le demi-chat.
Je dessine affreux.
Non, c'est un demi-chat parce qu'il ne rentre pas à la maison, celui-là.
Ah oui, d'accord. C'est un chat à moitié sauvage, voilà, d'une certaine
exactement.
Manière. Alors, je vais maintenant céder la parole à Camille Mazet, qui est des nôtres aujourd'hui en différé, pour présenter son coup de cœur. Je suis donc allée la voir il y a quelques jours et voici ce qu'elle nous a concocté.
C'est le manga Magus of the Library. Là, pour le coup, c'est le tome 2, puisque le 1 est sorti le mois dernier, il y a un ou deux mois.
Ah oui, donc c'est des sorties rapprochées, hein.
Oui. Donc habituellement, les mangas, quand on commence une nouvelle série chez une maison d'édition, on a le tome 1 et le tome 2 qui majoritairement paraissent en même temps pour donner plus envie au lecteur de continuer et qu'il ait quand même plus d'informations. Et là, pour le coup, on n'est pas sur ça, vu qu'ils ont mis un petit peu de temps à sortir le deuxième. Bon, ça reste quand même des sorties rapprochées.
Pour fidéliser les lecteurs.
C'est ça, pour fidéliser.
Et visiblement, ça marche.
Ça marche.
Avec vous, en tout cas.
Oui. Et donc, on est sur une histoire sur le pouvoir des livres et sur la magie de la lecture. On part donc avec un petit garçon qui s'appelle Shio et qui aime les livres. Il les aime vraiment beaucoup, sauf que il est pauvre et dans son village, on interdit l'accès... aux enfants pauvres à la bibliothèque, donc ils ne peuvent pas lire, ou alors lui il va un petit peu tricher, c'est qu'il va devenir ami avec la fille du bibliothécaire qui va quand même le laisser rentrer de temps en temps.
C'est la ruse.
Mais voilà, elle le fait rentrer hors horaire d'ouverture et ils trichent un petit peu tous les deux du coup.
Oui, mais il a bien raison. Ouais. Alors heureusement, nous à Nevers, on a des bibliothèques qui sont ouvertes à tous.
C'est ça.
Et on n'a même pas besoin d'avoir un abonnement pour y entrer, pour emprunter les livres, oui, mais pas pour y entrer. Donc cette histoire n'aurait pas pu exister dans notre univers. Et donc, il sait lire quand même avant d'arriver à la bibliothèque.
Oui, il sait quand même lire parce que sa sœur l'oblige à aller à l'école. Malgré qu'il soit pauvre, elle l'oblige. En fait, comme ils sont pauvres, à la base, lui, il aurait dû l'aider, aller travailler, etc. Et sa sœur a refusé et elle lui dit que non, il faut qu'il aille à l'école absolument.
Elle
a des ambitions pour lui et elle reconnaît qu'il a quelque chose et qu'il faut qu'il s'instruise pour s'en sortir mieux qu'elle, par exemple. Donc c'est sa grande sœur qui travaille, qui ramène l'argent à la maison, il est obligé d'aller à l'école. Ce qui lui déplaît pas plus que ça non plus. Hein,
mais surtout s'il apprend à lire. Donc les aventures à suivre...
Oui, vu qu'il a de très grosses ambitions, c'est qu'il aimerait aller visiter donc la plus grande bibliothèque de leur monde, qui se trouve assez loin de son petit village à lui.
Oui, elle a l'air exceptionnelle, cette grande bibliothèque.
Oui, il conserve tous les livres, il les restaure, ils en prennent soin, et ils ont toujours un ouvrage de chaque livre qui paraît dans le monde.
Voilà. Oui, c'est la bibliothèque d'Alexandrie.
Bibliothèque centrale, c'est ça. C'est une bibliothèque magique, et à l'intérieur, elle est gérée par ce qu'ils appellent des kauna. Donc c'est des femmes et peu d'hommes, peu d'élus, beaucoup de femmes finalement, qui s'occupent donc de protéger ces livres, de les acquérir, de s'en occuper, de les bichonner dans cette grande bibliothèque. Et lui, les kauna, on en apprend un peu plus dans le tome 2, c'est vrai, ça le titille un peu et il aimerait bien devenir kauna aussi. Mais bon,
ah oui.
peu d'élus, il faut passer des concours, etc. Et bon, en tant qu'enfant pauvre privé de bibliothèque, il a déjà du mal à
rentrer dans la bibliothèque à côté de chez lui. Ça. Alors bon, c'est pas facile.
Donc on va suivre un peu ses aventures et puis on espère bien sûr qu'il va y arriver.
Donc sans voilà. doute beaucoup de tomes comme dans les comme c'est ça. Souvent dans les mangas.
C'est ça. Je pense qu'on part sur une longue série. Je ne sais pas encore ce que Kiun, la maison d'édition, a prévu exactement comme nombre de tomes, mais c'est vrai que les mangas, ça avance lentement. C'est voilà.
C'est un autre plaisir. C'est ça. C'est dans la lenteur.
Alors Jean-Michel, vous avez choisi un premier morceau de musique. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel c'est ?
Oui, alors c'est un trio vocal américain des années entre 1935 et 1955 qui s'appelle les Andrew Sisters, que les générations un peu plus anciennes connaissent, les autres peut-être un petit peu moins. On mesure pas le succès que ces trois sœurs, sont des vraies sœurs, ont pu avoir aux États-Unis mais ailleurs. Et là, c'est un morceau en duo, enfin en quatuor, avec Bing Crosby. Et c'est un morceau écrit par Cole Porter, qui est donc la crème de la crème des songwriters américains.
Oui, on a connu pire. Hein.
Oui, on a connu beaucoup pire. Ouais.
D'accord. Alors, eh bien, nous allons écouter Andrew Sister maintenant.
Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in.
Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise.
I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in.
Oh, give me land, lots of land under starry skies. Don't fence me in. Let me ride through the wide country that I love. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in.
Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western skies.
On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise.
Ba 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 ba. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. No, Papa, don't you fence me in.
Alors, c'était Andrew Sister, c'était très jazzy.
Oui, 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 c'est un morceau qui s'appelle Don't Fence Me In. C'est ne me mettez pas de barrière. C'est une espèce de variation de Cole Porter sur le rêve worldwide américain, comme ça, les grandes prairies, les choses, mais c'est un peu un clin d'œil aussi, parce que je crois que c'était pas trop son truc, c'était plutôt un urbain.
Ah oui, donc bon, c'est des barrières quand même, oui, oui, il faut les enlever, qu'on soit dans la plaine ou dans la ville.
Oui, je pense qu'il parlait de barrières sexuelles.
Ah oui, d'accord, donc il y a un double sens.
Dites-en nous plus.
Allongez-vous.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson?
Parce que c'est un truc qui fout la pêche.
Eh ben voilà.
Le samedi matin, on se réveille, on barbote un peu dans son café, on met les Andrew Sisters et hop.
Et hop. Et hop. Merci pour ces explications qui nous éclairent. Retour maintenant dans le présent avec la très belle actualité du livre ce mois-ci. Nous avons d'abord une excellente nouvelle. Le prix Mallarmé, le prestigieux prix de poésie, a été attribué à Claudine Bohy, Naître c'est longtemps, qui est publié aux éditions La Tête à l'envers, donc une éditrice nivernaise. Alors je rappelle que nous recevions justement, et tout était calculé bien sûr, le mois dernier.
Et où elle parlait de sa fameuse sangria.
Exactement.
Qu'il a concocté aussi près.
Tout à fait.
Tout rejoint au point Mallarmé.
Tous les chemins mènent à La Tête à l'envers. Donc nous recevions la directrice des éditions La Tête à l'envers, Dominique Sierra, qui nous dévoilait tout sur les coulisses de ces éditions. Alors, je vous invite, bien sûr, à réécouter cette émission en téléchargement sur le site de BAC FM. Et bien, en attendant le prochain prix, voyons ce que nous réserve l'agenda de juillet. Alors, il est très riche. Le mois de juillet a été un vrai marathon de dédicaces aussi près et à Jean de la Lune. Il vous en reste un petit peu pour juillet, je crois.
Oui, alors là, on a tout donné en juin déjà.
Oui.
Il nous reste une date, oui, en juillet, le 6 juillet matin, donc de 10h à 13h, la dédicace de Roger Carré pour son tout premier roman, Né de grand-père inconnu, en auto-édition, donc son premier roman qui va venir nous présenter.
D'accord. Eh bien, le même 6 juillet, à la FNAC, il y aura aussi une dédicace de Michel Benoît, de 15h à 18h, qui viendra dédicacer son livre La guillotine ou La religion du couteau, donc une histoire de cet instrument bien français.
Assez intéressant. Moi, je l'ai lu, je n'étais pas partie sur le sujet particulièrement.
Vous n'êtes pas partie sur la guillotine?
Non, assez étrangement, non. Et c'est assez fascinant, en fait, toutes les anecdotes qui nous livrent.
Puis c'est vraiment très très typique de chez nous. Hein. Personne d'autre n'a adopté la guillotine, je crois. Enfin, peut-être un peu, justement, on doit en apprendre davantage dans ce livre. Donc l'ouvrage est préfacé par Eric Jung, qui est un ancien inspecteur de police reconverti dans le journalisme. Et le 20 juillet, toujours à la FNAC, Hélène Baker, alors c'est Hélène comme vous, mais sans E.
Rien à voir.
Enfin, je dis Baker, je ne sais pas comment ça se prononce, B-A-K-2-K-E-R, Baker peut-être aussi. C'est une très jeune romancière qui a 19 ans et qui publie aux éditions Sud-Arène le premier tome de La Gardienne. C'est une histoire fantastique, hein, donc l'auteur se définit comme une créatrice de monde et de rêve. À suivre donc. Et le 3 août, toujours à la FNAC, Nancy Adjé sera présente donc de 10h à 18h. Elle viendra dédicacer son livre qui s'appelle « Les chroniques d'Aurora ». C'est un roman de fantasy dans lequel les humains cohabitent, alors pas avec des chats, mais avec des êtres capables d'interagir avec la nature. C'est de l'héroïque fantasy, donc avec des prophéties, il y a une académie, beaucoup de péripéties. Donc pour ceux qui aiment les littératures de l'imaginaire. Donc ce sera à peu près tout pour cet été. Je pense que oui, tout le monde a tout donné en juin, donc après il en reste un petit peu moins. Mais j'ai gardé une petite surprise pour la fin. Le magazine de science-fiction Galaxy, qui est donc un magazine consacré exclusivement à la science-fiction et qui paraît tous les mois, propose ce mois-ci, tenez-vous bien, un dossier sur un écrivain de science-fiction nivernais. Si, si, ça existe. Alors, il se trouve par ailleurs que c'est une femme, Christine Renard. Bon, malheureusement, elle est morte, mais son œuvre est toujours bien vivante. Ce numéro spécial est un vrai bonheur, hein, avec une illustration de couverture de Sandrine Gestin, pour ceux qui connaissent. Il y a des inédits, beaucoup d'inédits, parce qu'elle a écrit de nombreuses nouvelles dont certaines n'avaient jamais été publiées, et qui pourtant en valaient la peine, parce que parfois, des choses qui ne sont pas publiées, mais c'est pas trop grave.
Il y a une raison pour.
Voilà, exactement. Mais dans son cas, il y en avait quand même une certaine quantité qui valent vraiment la peine. Il y a une présentation de l'auteur par André-François Ruault, qui est éditeur aux éditions des Moutons Électriques, et qui a publié d'ailleurs certains ouvrages de Christine Renard, qui étaient quasi introuvables, hein, qui n'avaient plus été publiés depuis les années 70. Enfin bref, c'est un petit bonheur de lecture que je vous conseille, de découverte pour ceux qui ne connaissent connaîtraient pas Christine Renard. Et je vous invite d'ailleurs à lire d'elle La planète des poupées. C'est pas du tout, enfin c'est très inattendu, hein. Les poupées sont des statues, enfin bon bref. C'est parce qu'on s'attend pas du tout à ce que ça s'appelle des poupées. Et L'amante au fil des jours aussi, cette fois est un roman fantastique. Ou alors pour ceux qui aiment les nouvelles, son recueil à contretemps. Donc voilà, un petit clin d'œil à un magazine qui met la Nièvre à l'honneur grâce à cet auteur qui est un peu inattendu. Et vous, Jean-Michel, vous êtes donc conservateur au conseil départemental de la Nièvre. Vous avez aussi des vies parallèles, celle que vit un certain Jim Roudier, qui n'a pas tout à fait le même nom que vous. Et celle qui nous intéresse, c'est l'écriture, puisque vous avez publié en 2012 un premier roman qui flirte avec le polar, sans en être un tout à fait, un inclassable, Airbag. Et en 2015, un autre ouvrage que j'ai là sous la main, Aircut, sans H, je précise, qui est une sorte, si j'ai bien suivi, de recueil d'anecdotes et de réflexions très éclectiques que je vais me faire un plaisir de lire après l'émission. Et donc encore un inclassable. Et cette année, vous publiez Fernand Sigrave aux éditions 102. Alors, encore une fois, c'est un récit hybride, donc vous aimez les inclassables. Cet ouvrage est le fruit d'un long parcours, hein, au sens propre comme au sens figuré, mais aussi d'un long travail de recherche. Quel en a été le point de départ ?
Alors, disons que ce bouquin a une origine professionnelle, puisque dans le cadre de mes fonctions de conservateur, j'ai eu à traiter des ensembles d'œuvres du graveur nivernais Fernand Chalandre, qui est surtout principalement connu pour ses gravures qui sont principalement des vues du vieux Nevers.
Oui, qui sont très connues.
Oui, qui sont connues, oui. Et dans ces ensembles d'œuvres que j'ai eu entre les mains pour des inventaires, des expositions, des acquisitions, j'ai identifié un certain nombre d'aquarelles, de dessins, d'esquisses du même Chalandre qui étaient complètement inédites et qui représentaient toujours la même femme, toujours la même jeune femme.
La femme mystère.
Chalandre n'a a priori jamais présenté ses œuvres, ses travaux au public. Et j'ai eu évidemment envie d'en savoir un petit peu plus sur cette silhouette, cette jeune femme comme ça qui commençait à prendre chair au travers d'un corpus d'œuvres d'une quinzaine de pièces. J'avais des contacts avec une personne assez âgée qui avait connu, dont le père était un ami de Chalandre, qui avait encore des souvenirs de cette histoire.
Mm-hmm. Oui, parce que c'est pas facile de trouver des gens qui ont des souvenirs de...
Non, c'est pas facile de trouver des gens qui ont des souvenirs de cette époque-là. En plus, Chalandre a été très peu étudié. On a quelques textes assez courts de ses contemporains, mais qui sont plutôt des textes d'hommage amicaux, donc on sait pas grand-chose au final de sa vie privée. Et puis, de fil en aiguille, comme on dit, j'ai réussi à mettre un nom sur cette jeune femme et puis à identifier quelle avait pu être leur relation.
Alors, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste ?
Ce qui m'a mis sur la piste, c'est déjà l'amour du dessinateur qui transparaît au travers de ses portraits. On sent que c'est pas, on est en face d'une muse, d'une égérie qui l'a visiblement beaucoup aimé. Et puis,
il l'a aimé et elle l'a inspiré.
Il l'a aimé, elle l'a inspiré. Et puis j'ai compris et on me l'a confirmé que leur histoire commune s'était brisée de manière assez brutale, assez tragique.
Et donc c'est une belle histoire d'amour malheureux.
Exactement, c'est une très belle histoire d'amour malheureux, une histoire romantique, romanesque.
Mm-hmm. Avec des rebondissements aussi.
Avec des rebondissements. C'est la conjonction de deux destins au final assez brisés, assez tragiques. Et puis bon voilà, j'ai présenté toutes ces émergences, ces conclusions lors de plusieurs conférences dans un cadre professionnel, dans le cadre de musées. Et puis les gens m'ont dit, mais c'est un vrai roman ce que vous nous racontez là.
C'est matière romanesque.
Matière romanesque, écrivez-le, allez-y. Et puis voilà, j'ai
profité. Et vous l'avez fait.
J'ai profité de l'hiver pour essayer de mettre tout ça en ordre.
Et vous avez choisi une forme un peu particulière, une forme un peu hybride. Pourquoi cette forme ?
Oui, alors une forme, parce que je voulais dépasser un peu le cadre strict et assez contraint de la biographie scientifique professionnelle, comme tous les conservateurs peuvent en écrire, avec des enfilades de dates, d'expositions, de participation à des salons, des récompenses, des choses comme ça, pour me tourner vers l'aspect plus humain, plus charnel peut-être aussi de cette histoire. Donc sans pour autant tomber dans le roman type Arlequin, évidemment, c'était pas du tout le propos.
Ni dans le pathétique, ni dans
donc,
le
donc voilà, il a fallu inventer un entre-deux, entre une réalité historique, une réalité de l'histoire de l'art à cette époque. Donc on est entre 1910 et 1920 grosso modo. Et puis donner chair aussi à cette liaison, donner cadre aussi à cette période avec en contrepoint le drame de la guerre de 14.
Oui, parce que ça c'est quand même un événement. Enfin, je veux dire, ça a particulièrement marqué ces deux vies.
Oui, ça a d'autant plus marqué Chalandre qu'il était Chalandre a été privé de mouvement. À l'âge de 20 ans pratiquement, il a souffert de la poliomyélite. Mmh. Et donc il n'a pas pu évidemment participer à la guerre de 14, donc il subit cette boucherie d'ici de Nevers. Il reçoit comme tout le monde des nouvelles de tel ami qui s'est fait déchiqueter par un obus en forêt d'Apremont ou dans la Somme, etc.
Donc c'est une vision de la guerre justement pas sur les lieux mêmes, mais celle qu'on en a.
Et puis imaginez aussi quelle pouvait être la vie dans une ville comme Nevers, vidée de tous ces hommes jeunes. Mmh. Enfin, comme toute la France de l'arrière, ça c'est quelque chose qui nous est assez difficile à imaginer. Mais il restait les femmes qui étaient souvent employées dans des usines d'armement. Les campagnes étaient absolument désertées.
Et lui, c'est ça qu'il a vécu.
Et il a vécu ce traumatisme dont il s'est peut-être relevé justement avec cette liaison avec la jeune femme dont il est question, qui se prénomme Élise.
Élise. Tout de suite, nous allons écouter le deuxième morceau de musique que vous avez choisi, Jean-Michel. Alors là, ça n'a rien à voir, c'est plus du tout jazzy.
Non, plus du tout. C'est de la chanson française, texte et musique.
Oui.
C'est Jean-Louis Murat, qui est un type que j'aime beaucoup, qui est auvergnat. J'ai fait mes études à Clermont, donc ça nous a peut-être un petit peu rapprochés. Et c'est un morceau qui est extrait d'un album qui est un petit peu ancien. L'album s'appelle Mustango. C'est un de ses meilleurs albums qu'il a enregistré avec le groupe américain Calexico. Et ce morceau s'appelle Les Hérons.
Voilà. Alors, nous allons nous envoler avec Les Hérons.
Le vent de Fane et de Lombarde viendra déposer, je le crains, son blanc manteau, mon camarade, sur l'âme folle qui nous tient. Le vent déchire sur la Limagne, a abattu tous les hérons, partout on ne jure que mitraille, que vengeance, que punition. On jure par les saillies du diable qu'un mal qui épargne les chiens tuerait les amants en cascade, tous les gens jeunes, les gens sains. Que dans les ronces vers la Sagne se retirent les hérons en larmes bleues, d'un bleu final savent mourir les compagnons. Sait-on la dame qui nous peinent, éprouve-t-elle un grand chagrin? Son triste cœur se boit de hêtre, nous ferait donc croire au malin. Camarade, c'est pour parler de la saison. Si je t'écris, c'est que le vent de Fane et de Lombard a abattu tous les hérons.
Eh bien, c'était Les Hérons de Jean-Louis Murat. Alors, c'est oui, effectivement, c'est pas du tout le même style que précédemment. En
non,
plus, avec un texte assez,
assez
fort. Hein.
Assez sombre, oui.
Oui, hein.
Oui, je crois que c'est une métaphore du sida, le vent qui a abattu tous les hérons, etc. Et c'est plein de belles images sur la grande plaine de Limagne, et puis ce vent qui souffle et... Et voilà quoi, c'est effectivement pas super guilleré, mais
c'est moins guilleré que l'autre.
Beaucoup moins.
Jean-Michel, on vous laisse enchaîner derrière. Hein,
qu'est-ce qui vous a séduit dans cette
musique de forêt, peut-être.
Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette musique?
Oh, la qualité d'écriture de Murat.
Mm-hmm. Donc le
même
texte.
Même s'il est parfois un petit peu abscon. Mais voilà quoi, c'est.
Il faut la clé.
C'est aussi, ouais, c'est des textes qui sont à lecture ouverte, lecture multiple. Et puis bon, c'est un vrai personnage quoi, qui, pour être un peu vulgaire, qui emmerde tout le monde. Et ça, je trouve que c'est quand même un vrai luxe en ce moment.
Oui. Vous rendez compte de notre liberté d'emmerder. Ça fait d'être.
Je vois que ça remporte tous les suffrages. Donc, un emmerdeur qui a bien raison d'emmerder le monde.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce que vous avez découvert, à quoi vous ne vous attendiez pas en étudiant cette vie de chalandre?
J'ai soulevé le drap sur un homme qu'au final personne ne connaissait.
Qu'on croit connaître
au travers des œuvres, mais il y a cette part intime, cette part complètement cachée, qui m'est apparue petit à petit comme ça, en reliant les différents points entre eux, en essayant, je le répète, de donner corps à cette histoire. Et pour quelqu'un qui travaille autour de l'histoire de l'art, c'est vraiment intéressant justement de dépasser l'étude de l'œuvre. On croit connaître l'artiste derrière l'œuvre,
oui.
Mais derrière l'œuvre, il y a un homme de chair, un homme de sang, et
avec des sentiments,
avec des douleurs intimes. J'évoquais tout à l'heure cette poliomyélite, qui à l'époque était encore une maladie extrêmement courante.
Dont il a beaucoup souffert et qui a forgé aussi sa vision de la vie. Et
voilà,
qui a forgé
sa vision de la vie, qui a forgé son art, puisque c'est à partir de 1910, il ne pratique plus que la gravure sur bois. Donc on est vraiment dans du très noir et du très blanc.
Oui, ça ne respire pas forcément la gaieté. Mais pourquoi Fernand Chalandre? En quoi est-ce qu'il était important pour vous?
Bah, Fernand Chalandre, c'est Nevers.
Voilà, en une phrase, tout est dit.
Oui, non. L'imagerie de ce qu'on appelle, de manière un peu vulgaire, j'aime pas beaucoup cette expression, le vieux Nevers, c'est vraiment lui.
C'est lui qui a forgé l'image qu'on s'en fait.
Ouais, absolument. beaucoup plus que les cartes postales qui apparaissent à la même époque, hein, au tournant du 19e, 20e.
Comment vous l'expliquez ?
Par la qualité de son boulot, tout simplement. C'est vraiment c'est un graveur hors pair. Et s'il n'avait pas été privé de mouvement, s'il avait pu, par exemple, se rendre à Paris pour graver, que sais-je, le Pont Neuf, le Chevet de Notre-Dame, ou même plus loin, à Londres, ce serait devenu un des artistes les plus importants de l'Europe occidentale à cette époque. Un des graveurs, en tout cas, les plus importants, c'est très clair.
Alors c'est presque dommage qu'il n'ait pas pu aller graver d'autres lieux.
On l'a gardé pour nous.
Voilà, on a gardé le meilleur.
Et comme disait Jean-Michel, dans ce livre, on voit qu'il y a la chair de Fernand, d'Élise, etc. Je sais pas si, enfin, évidemment, on a la radio, vous ne le remarquez pas. Mais si vous avez l'occasion de l'avoir entre les mains, ce livre, la couverture est douce, elle n'est pas glacée. Comme si le livre aussi a de la chair. Non, mais j'aime beaucoup le livre en tant qu'objet. Je trouve qu'il y a un vrai travail sur la maquette qui a été fait aussi.
Le contenant se rapporte au contenu.
Oui. Non, mais c'est vrai, je trouve
que tout est étudié, hein.
C'est la réflexion avec une collègue, justement.
Oui, dans la mesure où on était dans un genre littéraire un peu marginal. Hein. J'aime pas trop le terme de biographie romancée.
Mais ce n'est pas une biographie romancée, c'est un récit biographique.
Récit biographique.
Rien à voir.
Voilà. J'ai aussi essayé de donner une forme un petit peu décalée. Donc on est dans un format carré assez grand. C'est un copain qui a fait la maquette de la couverture, Laurent Bonté, je le remercie.
Et vous avez choisi aussi de ne pas mettre beaucoup d'illustrations.
Non, il y en a une dizaine, une par tête de chapitre, parce que...
Et dans des formats assez restreints.
Oui, c'est pas un livre d'art, c'est pas un catalogue raisonné de l'œuvre de Chalandre, loin de là. Peut-être que moi ou quelqu'un d'autre s'y attaqueront un jour. Non, c'est des petits bonbons pour l'œil comme ça qui permettent de recaler aussi pour le public qui ne connaît pas très très bien Chalandre ou qui ne connaît pas du tout l'œuvre de Chalandre qui permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis le nevers de l'époque, et puis cette figure d'Élise aussi qu'il a peinte et qu'il a gravée.
Et alors, c'est un travail qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'études. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ?
Être crédible.
C'est-à-dire ?
Cette histoire est vraie. J'ai essayé de lui donner un cadre et je le répète, une chair, une matière, une présence, mais tout en restant les deux pieds dans l'histoire. Donc il a fallu planter, camper et vérifier absolument tous les événements qui ont pu se passer à Nevers, à la fois dans la carrière de Chalandre et à la fois à l'extérieur pendant cette période. Il y a un chapitre où j'évoque les rapports de Fernand Chalandre avec les Américains du corps expéditionnaire et notamment ce camp sanitaire de l'arrière qui était installé à l'emplacement du circuit actuel de Magny-Cours. Donc ces gens viennent à Nevers, etc., et fréquentent Chalandre parce que sont des gens de l'arrière, des gens assez âgés, d'une classe sociale élevée, qui sont probablement pour une partie d'entre eux des amateurs d'art, donc ils font des commandes à Chalandre, ils achètent beaucoup de ses œuvres. Et je me suis dit, tiens, on va placer un petit peu de manière centrale de ce chapitre sur les Américains la venue à Nevers du général Pershing, qui est le chef du corps expéditionnaire américain. Je savais qu'il était venu à Nevers et voilà, il a fallu trouver quand, il a fallu trouver comment.
Et vous avez fini par trouver.
J'ai même fini par trouver quel modèle de bagnole il était arrivé.
Ça c'est de la vérification. Hein.
Mais oui, mais c'est voilà,
oui,
c'est ça.
Crédible,
quoi. Il faut être crédible, il faut
donc
être sérieux.
Tout ce que vous indiquez dans ce récit a été vérifié et est véridique.
Et véridique.
Sur des documents.
Il y a quelque chose annexe, quelques détails annexes que j'ai ajoutés pour des personnages secondaires comme ça pour donner un petit peu plus de vie à l'ensemble. Mais
tous les événements historiques sont vérifiés.
Tout est vrai, ce qui n'est pas vrai aurait pu l'être.
D'accord. Alors vous ouvrez sur Pondichéry, vous êtes allé à Pondichéry vérifier aussi ?
Non.
Pas encore.
Mais c'est j'attendais qu'un libraire local me sponsorise.
Nous on y réfléchit, hein, vraiment.
Parce qu'en fait il faudra faire pour l'été de l'année d'après l'Inde.
Voilà,
après le Japon.
C'est ça. Je cherche un éditeur.
Oui. Merci. Donc, et alors donc cette femme mystère, est-ce qu'on en sait un petit peu plus?
Oui, oui, oui. Alors cette femme mystère, c'est donc une jeune couturière de Nevers. Alors ça m'a ramené aussi à l'histoire de ma mère qui était couturière à Nevers. Du coup, quand j'étais jeune, j'ai entendu plein d'anecdotes sur ces petits ateliers de couture, ces jeunes cousettes, etc. Donc ça c'était plutôt sympa.
Ça vous a rappelé des choses connues?
Absolument, oui, oui.
C'était inattendu, ça?
Ça, c'était un petit peu inattendu, oui. Et donc cette Élise a une vie également tragique, puisqu'elle épouse un ami de Chalandre qui meurt quelques mois après leur mariage. Ensuite, il y a cette histoire tragique avec Chalandre. Bon, je vais pas dévoiler le...
Ah ben non, faut pas dévoiler tout le suspense, là.
Le pitch, et puis elle termine sa vie... elle termine sa vie, non, mais elle se marie une deuxième fois avec un diplomate de rencontre qui l'emmène à Pondichéry et qui meurt également assez rapidement.
Oui.
Voilà, il y a des gens qui n'ont pas de chance.
Effectivement.
Mais non, c'est quand je suis avec le Murat...
oui,
voilà.
Ça va, sinon je...
Oui, ça va bien. J'ai des nouveaux médicaments.
On vous a changé la molécule.
Absolument.
Alors, tout va bien.
Mais que les gens se rassurent, c'est pas un livre où on sanglote.
On n'est pas dans le pathos.
On n'est pas dans le pathos.
Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt beau, en fait. C'était une belle histoire.
Très vivant.
Ah oui. Et qui inspire, oui, réellement le romanesque. Hein. Ça aurait pu effectivement être un roman.
Oui.
Il y a tous les ingrédients pour en faire un roman.
Oui, j'ai voulu faire court aussi parce que déjà j'avais pas énormément d'éléments à tester pour partir sur 200 pages, et je crois que j'ai essayé comme ça de garder une espèce de dynamique d'écriture. Bon, j'espère que ça fonctionne.
Oh bah oui, ça fonctionne. Hein.
Sur moi, ça fonctionne.
En tout cas, en voyage.
Lecteur, ça fonctionne.
Vous avez travaillé tout seul sur l'ensemble de ces recherches?
Non. Bah, j'ai un réseau de collègues, confrères, amis qui sont qui dans des bibliothèques, qui dans des services patrimoine, qui dans des musées, qui m'ont ou des collectionneurs privés qui m'ont très gentiment ouvert leurs archives, leurs fonds photographiques, justement qui m'ont permis de vérifier tel ou tel point, des choses absolument cruciales comme la date de destruction de l'église de l'ancien couvent des Minimes,
ben voilà.
qui se trouve devant le portail de l'actuelle qui se trouvait devant le portail de l'actuelle prison, et où l'école des Beaux-Arts de Nevers était installée, que Chalandre a fréquenté, et pendant que Chalandre y est, visiblement cette église est désaffectée et détruite, et j'ai peiné à trouver exactement à quelle date ça pouvait se passer.
Pour tous les amoureux de Nevers, c'est aussi passionnant.
Oui, il y a une belle promenade dans un Nevers qui n'existe plus et qui reprend vie, revivre un petit peu.
Oui. Alors ça fait partie des retours presque les plus inattendus que j'ai. C'est vrai que j'ai dépeint ce vieux Nevers, hein, donc les quais de Loire, les escaliers qui montent à la cathédrale, etc., le quartier Saint-Étienne où Chalandre a eu son atelier un petit peu plus tard, pour servir de cadre sensible à cette histoire, et les gens s'y sont assez volontiers retrouvés. Voilà cette promenade comme ça.
Oui, c'est une résurrection du vieux Nevers, même si le terme...
Qui existe encore.
Oui, mais il n'en reste que des petits morceaux, on va dire.
Ah, des bons morceaux, quoi. C'est vrai que quand on regarde les gravures de Chalandre, les gravures qu'il a pu consacrer justement au quartier de la cathédrale, à la butte, on s'y retrouve encore. Il n'y a pas eu de destruction massive.
Il n'y a pas eu de destruction massive. Alors, vous dédicacerez votre livre à la charité le 11 juillet. Dans le cadre d'un café patrimoine?
Absolument, oui. Café patrimoine qui est organisé en marge ou concomitamment à l'exposition d'été du musée de la Charité, qui se tient dans le cloître, et qui est une exposition de vues de la Charité, vues insolites de la Charité, dans laquelle Chalandre va avoir une bonne place, puisqu'en dehors de Nevers, il a passé une semaine à la Charité et quelques jours à Cône-sur-Loire. Mmh. Donc, il a ramené justement quelques vues de la Charité. Donc oui, ce sera un café patrimoine. Je crois que c'est le 11 juillet à 18h. Mm-hmm. Donc je serai accueilli par Marie Barthelet, qui est animatrice du patrimoine, et conservatrice du musée de la Charité qui était là se fermer. Donc ce Merci. Sera voilà une un débat lecture signature
et alors pour nous faire pour nous faire envie de ce machin truc, vous allez nous donner un petit avant-goût en nous lisant un petit passage,
oui,
sans trop révéler.
Un tout petit passage, ouais. Alors c'est un passage où on vient de faire connaissance avec Élise, qui fréquente la bande de copains de Chalandre, du jeune Chalandre, hein, ils ont tous une vingtaine d'années. Et cette bande s'est réunie sous la bannière d'une sorte de club pré-surréaliste qui s'appelle le Maboule Club. Et donc Élise arrive. On l'adopta, comme on adopte une petite chatte rousse et blanche, trouvée dans un réduit, et qui devient la reine de la maison. Il n'était pas d'excursion au Bec d'Allier sans qu'elle en soit. Pas de concert dominical au kiosque du parc municipal sans qu'on lui laisse la meilleure chaise. Pas de visite d'un salon des beaux-arts sans qu'on lui demande son avis sur les dernières œuvres de cet invité d'honneur, un jeune gommeux formé à la Grande Chaumière, héros d'une peinture de paysage se pensant enfin dégagé du carcan du père Anoto. Ça, mon petit vieux, c'est épatant, t'as vu ces couleurs? Un peu en arrière des nœuds lavalières glosant devant cette grande toile, elle asséna mezzo voce, mais tout de même assez fort pour que chacun entende. Pas assez de dessin. On se tourna vers elle, l'œil écarquillé. Elle avait raison, mille fois.
Voilà un jugement sans appel. Alors, je crois que vous avez aussi une suggestion de lecture à faire à nos auditeurs.
Oui.
Vous qui n'êtes pas forcément un grand lecteur, me disiez-vous, mais que...
Non, je suis un lecteur d'été.
Voilà.
Oui, alors si quelque chose a pu m'influencer, on va le dire comme ça, mm-hmm. Je vais pas chercher de circonvolution un peu absurde, c'est Jean Echenoz, et notamment sa trilogie de récits biographiques, Ravel, Émile Zatopek, mm-hmm. et puis le physicien Tesla.
Des éclairs.
Ouais, des éclairs, voilà. Mm-hmm. Et notamment Ravel, parce que bon, je suis un grand fan de Maurice Ravel, et ce
pas
texte.
Pas seulement Andrew Sister, mais aussi Maurice Ravel.
Voilà. Et ce texte qui est sorti maintenant, il y a, je sais pas, une bonne quinzaine d'années, hein, facilement, je crois, le texte mm-hmm. d'Echenoz, a été vraiment un choc pour moi dans le. Ce qu'il a mis en avant, il a prouvé que l'idée de pouvoir faire revivre un homme et une œuvre, pouvait justement se faire en déviant d'un cadre très très strict et très bourgeois, si j'ose dire, de la biographie, en étant comme ça dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus furtif, beaucoup plus grave aussi, d'une certaine manière, parce que le Ravel d'Echenoz, c'est un texte assez sombre par bien des aspects, hein. On y rencontre un Ravel qui commence à avoir une affection du cerveau qui va finalement lui faire perdre sa raison mmh. Et ses moyens, et puis aussi cette nervosité, cette concision d'écriture, cette idée comme ça d'aller dans des phrases coup de fouet, dans des phrases qui laissent le lecteur un petit peu en haleine, et ça c'est
vous a inspiré stylistiquement.
Oui, forcément. J'ai essayé de pas faire du Echenoz. J'espère que c'est pas ça, mais bon.
Il y a pire comme inspiration aussi.
Il y a pire
hein,
comme
bon.
Inspiration, mais
je pense.
Mais voilà, je préfère pas le cacher. C'est vrai que je pense que si je n'avais pas eu l'occasion de lire et d'apprécier et de le lire plusieurs fois le Ravel d'Echenoz.
La face de Fernand Grave en eût été changée.
ou peut-être pas de face du tout.
D'accord. Donc oui, il doit beaucoup finalement au Ravel d'Echenoz.
Et puis, puisqu'on parlait de la guerre de 14, il y a aussi ces 110 ou 120 pages d'Echenoz qui s'appelle en très sobrement 14 et qui résume à elle seule des milliers de pages de littérature sur la question. Voilà, donc hop, lisez Schnauz.
Lisez le rappel des Schnauz.
Ça se trouve encore facilement aussi.
Ah oui, tout à fait. Validé par la librairie Le Cyprès Jean de la Lune. Je vois.
On ne laisse pas nos Schnauz, on les garde en rayon.
Ah bah oui, bah ça c'est un indémodable. Eh bien, alors avant de nous quitter, je dirais quand même aussi un bref mot d'une autre de vos vies parallèles, la photo, puisque vous exposerez à la médiathèque de la Machine de juillet à septembre une exposition consacrée aux oiseaux. Oui, c'est bien ça.
Oui, absolument. Oui, une exposition de 22 photos, format 40-40 d'oiseaux, une sélection comme ça, pour le plaisir, absolument.
Ben voilà. Mais il
n'y
a pas de mal. Hein.
Non, il n'y a absolument pas de mal. C'est un passe-temps sympa. Ça permet d'oublier les cons et les voitures.
Je vois, et puis vous écoutez Jean-Louis Murat et c'est reparti avec Andrew Sisters. Eh bien, merci beaucoup. Nous terminons donc cette émission sur des ailes. Merci Jean-Michel Roudier d'avoir répondu à notre invitation. Et j'invite bien sûr tous les auditeurs à ouvrir Fernand Sigrave et à se laisser porter par le récit de sa vie. Donc les voix du livre vous donnent rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures dans les studios de Bac FM.